On commence un cours d'introduction à la Bible. C'est vaste comme sujet, là. Donc, on a 12 leçons. À chacune des leçons, on va regarder une des qualifications de la Bible, une des qualités de la Bible. En commençant par la principale, c'est que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu. Puis, dans les semaines suivantes, on va voir que la Bible est inhérente, c'est-à-dire qu'elle ne contient pas d'erreur. Elle est autoritaire. Il y a une unité dans la Bible. Donc, c'est faux de dire que la Bible va se contredire. Oui. Il y a une unité de pensée, une unité dans les principes présentés. La Bible est claire, elle est très simple, mais en même temps, elle est très profonde. On ne vient jamais à bout de toutes les richesses qu'on peut en faire sortir. La Bible nous avertit aussi, elle sert d'avertissement. La Bible va nous encourager. On va voir c'est quoi le centre de la Bible aussi. Avez-vous une idée, c'est quoi? Oui. On va voir aussi que la Bible tient un discours qui est impartial. Souvent, elle va décrire les événements qui se sont produits sans nécessairement dire si la personne a bien fait ou mal fait. C'est cet esprit qui va nous conduire dans notre interprétation du texte. La Bible, elle est suffisante. On n'a pas besoin de rien d'autre. Et en plus, elle est complète. Elle a été complétée. On va faire un survol aussi de certains livres de la Bible. Et on devrait passer à travers tous les livres. C'est sûr que c'est un survol de très haut, là. Mais c'est pour avoir une idée globale du message de la Bible, puis les liens. Si on commence, le mot « Bible », ça vient du grec « biblia », ça veut dire « livre ». Souvent, on dit « le livre », mais en fait, à l'origine, c'était « les livres ». C'est comme, faut voir la Bible comme une collection de livres. C'est comme une bibliothèque qu'on traîne avec nous. La Bible, c'est en fait une collection de 66 livres, écrits sur une période de 1500 ans. C'est unique, il n'y a aucun autre recueil qui existe comme ça dans le monde. Puis les livres sont regroupés en deux testaments, on appelle. Le mot testament veut dire alliance. Donc, on aurait pu appeler ça ancienne alliance, nouvelle alliance. Mais par tradition, les protestants, les chrétiens, là, depuis le début, ont appelé ça l'Ancien Testament, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, c'est des écrits qui nous sont comme légués, laissés en testament. Mais c'est dans le sens de alliance. L'Ancien Testament, ça présente l'alliance de Dieu avec son peuple d'Israël, où il y a une préparation, là. Comme on étudie dimanche matin l'histoire d'Abraham, le peuple d'Israël n'existait pas encore. Là. C'était pour la préparation de cette alliance-là. Donc, l'Ancien Testament traite surtout de l'alliance de Dieu avec son peuple, qui est Israël. Le Nouveau Testament traite de l'alliance avec son peuple, qui est l'Église. Donc, ça, c'est la grande démarcation des deux sections. On voit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui sont placés en ordre chronologique, là, l'Ancien avant. Ce qui sépare les deux, c'est la venue de Jésus. Vous savez déjà, là, on fait juste faire un rappel. Si on regarde l'Ancien Testament en particulier, ça a été écrit par plusieurs auteurs, sur plusieurs siècles même, jusqu'à 400 ans avant Jésus. Donc, dans les derniers 400 ans, il n'y a pas eu de nouvelles écrits. Bien, il y en a eu, mais c'était des écrits apocryphes ou des études là, faites par les pharisiens. Mais l'Ancien Testament était comme complété. L'Ancien Testament est adressé au peuple d'Israël, en hébreu. Mais c'est sûr que d'autres nations pouvaient avoir accès à entendre ce message-là, mais ce n'était pas un message qui était envoyé à toute la terre. C'était un message qui était vraiment spécifique, adressé au peuple d'Israël par les prophètes. Mais il y avait quand même une ouverture sur le monde. C'est écrit en hébreu. Si vous voulez voir un exemple de ce que ça a l'air. Là. En plus, ça se lit de droite à gauche. Là. Ouais, le premier mot à droite, c'est Bereshit, Bara Elohim. Donc, Dieu, au commencement, Dieu créa. Et Hashamayim veyet Aeretz, les cieux et la terre. Le Nouveau Testament, lui, est écrit par plusieurs auteurs aussi, au premier siècle. Donc ça a été plus concentré, là, pendant le premier siècle, après la venue de Jésus. Donc rendu à l'an 100, c'était terminé. C'est adressé aux chrétiens, mais ça aussi avec une ouverture sur le monde, là, pour que toutes les nations puissent le lire. Mais c'est adressé principalement aux chrétiens. Les lettres sont envoyées aux chrétiens des différentes églises. Les évangiles sont là aussi pour fortifier notre foi, mais c'est sûr que c'est une ouverture pour qu'un non-chrétien la lise puis puisse parvenir à la foi en la lisant. Mais c'est adressé au peuple de Dieu. En grec, si on regarde un exemple, là, c'est du vieux grec. Ouais. Ben oui, tu peux nous le lire? Ouais?
En archi in oloros, que oloros in proston theon, que theos in oloros. C'est-à-dire, quand tu ne mets pas l'accent, tu ne comprends pas. C'est comme dans n'importe quelle langue. Hein. C'est l'accent qui fait toute une différence.
C'est vrai, parce que moi, je ne prononce pas comme ça. Ça veut dire, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu, ou auprès de Dieu. Et la parole était Dieu.
Et Dieu était la parole.
OK, ce qui est important de savoir aussi, pour nous aider à nous démêler quand on lit la Bible, c'est que les livres ne sont pas nécessairement placés en ordre chronologique. C'est sûr que l'Ancien est placé avant le Nouveau, mais quand on lit les livres de l'Ancien Testament à partir de la Genèse, ça, c'est vraiment le début de l'humanité, là. Mais pour ça, quand on lit, c'est pas nécessairement en ordre chronologique, c'est-à-dire c'est pas nécessairement sur le fil du temps. Mais nous, on a l'habitude de réfléchir en mode de temps, là. On regarde un film, c'est selon le temps, là. On lit un roman, c'est dans le temps. Les Juifs ne sentaient pas nécessairement le besoin de cela. De toute façon, il y avait une idée très claire de où situer chacun des textes. Donc, ils les ont plutôt regroupés par style littéraire. L'Ancien Testament, le premier groupe qu'on appelle le Pentateuque, Penta qui veut dire cinq. Donc, c'est les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, c'est les livres historiques, donc tout ce qui est les récits de Josué, Juges, Ruth, Samuel, les rois, Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Pourtant, Chronique a été écrit vraiment tard. Donc, c'est pas en ordre que ça a été écrit. Ça est vraiment rassemblé par style. Ensuite, il y a eu les livres poétiques qui sont rassemblés. Job est placé juste avant les psaumes. Pourtant, Job, c'est l'un des premiers, là. C'est peut-être même le premier livre, le plus vieux. C'est plus que juste un recueil des annales des rois, là. C'est vraiment un écrit... On classe ça dans les livres historiques, mais c'est la parole de Dieu encore ici. Là. Il y a un but pour chacun des passages qui est là. Puis les livres prophétiques, qui sont plus prophétiques, mais ça contient aussi de l'histoire là-dedans. Puis parfois de la poésie. Il y a Ésaïe, Jérémie, les Lamentations de Jérémie, Ézéchiel et Daniel, qui sont les cinq grands prophètes, parce qu'ils ont écrit plus longuement. Là. Puis il y a les 12 petits prophètes. On les appelle les petits prophètes parce qu'ils ont écrit un petit texte, mais ils ne sont pas plus petits pour autant. Mais ils ont une moins grande influence. Le Nouveau Testament aussi est réparti par style. Il y a les quatre évangiles qui sont regroupés au début. Pourtant, l'évangile de Jean a été écrit vraiment très tardivement, après toutes les épîtres. Il y a un seul livre qui est dans la catégorie historique, là, c'est les Actes des apôtres. Ensuite, il y a toutes les épîtres, qui est vraiment un style littéraire, c'est sous la forme d'une lettre. Ça respecte les protocoles de l'époque, là, avec une introduction, une salutation, un développement, une salutation à la fin, une bénédiction. Tu dis à qui tu t'adresses, tu indiques c'est qui écrit. Pour la plupart, on sait c'est qui l'a écrit. Il y a l'épître aux Hébreux, qu'on n'a pas de preuves. La plupart pensent que c'est Paul, mais on ne sait pas c'est qui a écrit Hébreux. Pour tous les autres, ils portent leur nom, ou le nom du destinataire. Un livre qui est presque purement prophétique, c'est Apocalypse, mais qui inclut aussi des lettres aux sept églises, puis il y a une partie d'épîtres dedans. Mais ça aussi, le Nouveau Testament n'est pas nécessairement en ordre chronologique. Puis pour ça, ça peut être difficile parfois de saisir de quoi il parle, puis de se situer dans l'histoire. Puis c'est pour ça qu'on recommande au moins une fois dans sa vie de lire la Bible en ordre chronologique. Ça nous aide à avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce qui s'est passé avant quoi, là. Puis pour ça, je vais vous donner une petite feuille. C'est sur un an, mais en fait, vous pouvez le faire au rythme que vous voulez, là. Donc, on part de l'Ancien Testament et le Nouveau en même temps, en parallèle, mais on lit en ordre chronologique. Par exemple, quand on voit dans Samuel, l'histoire de David, on voit les psaumes qu'il a écrits, à peu près au moment où il a vécu ça. Quand on arrive à l'histoire de Salomon, on lit ses proverbes. C'est plus en ordre chronologique, comment ça se passe, là. Les prophètes sont insérés au moment où ils ont vécu aussi dans l'histoire. On parle en chronologique dans l'Ancien Testament et le Nouveau en parallèle. C'est sûr que le Nouveau est arrivé bien après, là. C'est juste pour ne pas être pendant 9 mois dans l'Ancien Testament, puis pendant 3 mois dans le Nouveau. C'est pour avoir goûté aux deux un peu en même temps, là. Puis le Nouveau Testament lui part avec Matthieu, qui est l'histoire de Jésus, là. Quand on arrive dans les Actes des apôtres, bien, on voit au moment où Paul a écrit la lettre aux Corinthiens, où il a écrit la lettre aux Galates. Donc, on va lire la lettre qu'il a écrite au moment que se déroule l'histoire dans Actes. Oui, d'après les données qu'on a aujourd'hui. Comme par exemple, on commence Genèse, après ça, on va dans Job. Il semblerait, certains chercheurs pensent que Job a été écrit pas mal juste après que Genèse a été écrit. Ça serait très ancien, là. C'est avant que le peuple d'Israël soit formé. Peut-être même que Job a été écrit avant Genèse. Mais chronologiquement, de toute façon, c'est mieux de lire Genèse au début, là. Parce que c'est pas seulement en ordre que les textes ont été écrits, c'est en ordre logique aussi des événements. Donc, c'est un mix au moment où ça a été écrit, Oui, il y a 365 petites cases. Donc, c'est pour pouvoir les lire en un an. Donc, il semblerait que les dernières choses qui ont été écrites dans l'Ancien Testament, c'est deux psaumes. Les psaumes 146 à 150. Pourquoi on appelle la Bible la parole de Dieu? C'est parce que c'est vraiment ça, la révélation de Dieu. C'est Dieu qui se révèle. Puis en cela, la Bible est différente de toutes les autres écrits dans le monde. Même ce que les musulmans vont lire, là, le Coran, c'est des écrits d'un prophète, là, mais c'est même pas présenté, je pense, comme la révélation de Allah. C'est le prophète qui a été illuminé, mais la Bible ici, elle se présente elle-même comme la parole de Dieu. Ça, c'est une différence. Bon, on va encore creuser la question, là. Mais c'est Dieu lui-même qui se révèle. C'est Dieu lui-même qui nous écrit une lettre, qui nous est adressée. Puis plus on médite là-dessus, là, plus on se rend compte que c'est un privilège qu'on a d'avoir ça entre les mains aujourd'hui, là, chacun de nous. Dieu s'était d'abord révélé, il se révèle encore de manière générale, qu'on appelle. C'est-à-dire, il va se révéler dans la nature. La nature parle d'un créateur. Psaume 8, 4, versets 4 et 5, on regarde les étoiles, on sait que c'est l'ouvrage de quelqu'un. Là. On sait qu'il y a un être intelligent qui a fait ça. Là. Tout le monde le sait. Psaume 19. Puis quelqu'un d'autre peut tourner dans Psaume 19. Bon, quelqu'un d'autre dans Matthieu 5, quelqu'un d'autre dans Actes 14. Dieu a toujours rendu témoignage de son existence. Puis ceux qui demandent une preuve de son existence, c'est parce qu'ils portent des œillères, là, où ils ont les yeux bandés. Il y a une autre manière qui se révèle, c'est dans notre propre conscience, en nous. Les animaux n'ont pas la conscience de l'éternité ou qu'un être supérieur, mais les êtres humains, ils l'ont. Dès la naissance, on a cette conscience-là qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il y a un Créateur, qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Lisez Romains 2, 14 et 15. Oui, donc qu'est-ce que Dieu révèle dans la conscience de l'homme?
La différence
entre le bien et le mal. Oui, le bien et le mal, c'est vrai. On a tous des notions de base de ce qui est bien, ce qui est mal. On sait pas, on connaît pas toute la volonté de Dieu avant d'avoir lu la Bible, mais on sait que tuer, c'est mal. On sait que mentir, c'est pas bien. On peut s'habituer au mal, en prendre plaisir même peut-être, là, mais on sait que c'est mal. Puis ça, de naissance, on a une conscience. Et acte 17, ouais, donc même des poètes païens savaient qu'il y a un Dieu qui n'est pas loin de nous, qu'on peut le chercher, qui sait qu'on est là. Donc la conscience, la pensée qu'il y a un Dieu, les humains l'ont en général. Ça, c'est une preuve de son existence aussi, là. Mais, même si on a cette révélation-là, parce que l'homme est pécheur, ça ne le conduit pas à pouvoir être sauvé par établir son lien avec Dieu. Ce n'est pas suffisant, la révélation générale. Même au contraire, ça va le condamner. La révélation générale, parce qu'il sait qu'il y a le bien et le mal, puis qu'il le fait quand même, il va empirer. Je vais vous lire Romains 1, 18. Il dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Donc, on a la vérité là, de la révélation générale. On sait qu'il y a un Dieu. On sait qu'on a conscience du bien et du mal. Mais les hommes, en général, tiennent cette vérité-là captive. Ils l'étouffent. « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. » Car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, comme sa puissance éternelle, sa divinité, se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Et le résultat de cela, en plus de tenir la vérité captive, là, c'est qu'ils s'égarent. Ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Et se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, ou des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc, la révélation générale n'est pas suffisante. Elle serait suffisante pour avoir une relation avec Dieu si on n'était pas pécheur, mais parce qu'on a reçu une nature pécheresse à cause de la chute d'Adam et Ève, cette révélation-là n'est plus suffisante. Puis au contraire, elle va nous condamner. Puis à cause de nos péchés, puis parce qu'on tient cette vérité-là captive, Dieu a envoyé les nations de plus en plus loin dans le péché. C'est pour ça que l'homme avait besoin d'une révélation spéciale. Donc, il y a la révélation générale, mais la Bible est appelée la révélation spéciale. Ou est-ce que là, ce que Dieu nous révèle, on ne l'aurait pas nécessairement su? Il y a plusieurs choses qu'on n'aurait pas su, seulement en regardant la création. La Bible nous révèle l'histoire du monde. On peut résumer ça en quatre grandes étapes. La première, c'est la création. On sait qu'il y a un créateur, mais là, avec Genèse, on sait qu'est-ce qui s'est passé. On connaît, on a des points, des idées de c'est quoi la volonté de Dieu à l'origine. On connaît la chute. On sait que l'homme n'a pas toujours été pécheur. C'est qu'un jour, il a chuté parce qu'il a désobéi. Ça, on ne l'aurait probablement pas su sans cette révélation. La troisième étape qu'on voit dans la Bible, c'est le salut. Puis ça occupe la plus grande partie de la Bible. C'est que Dieu vient intervenir dans l'histoire de l'humanité pour sauver l'humanité. C'est la rédemption. Donc la Bible, dans le fond, nous raconte le plan du salut de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le message qui ressort, c'est qu'un jour, le Sauveur va venir. Mon serviteur, le bras de l'Éternel va venir. Le Messie. L'Ancien Testament parle de Jésus qui va venir. Puis le Nouveau Testament parle de Jésus qui est venu. Le Sauveur est venu. Mais toute la Bible parle de Jésus, qui est le plan du salut de Dieu. Puis la quatrième étape, là, oui, puis qu'est-ce que l'Apocalypse nous montre dans des visions, là, mais c'est quoi la conclusion? Oui, puis qu'est-ce qui va arriver au retour de Jésus? Oui, la glorification, la gloire éternelle. Donc, on veut retourner dans le plan original de Dieu, là, quand il a créé le monde, mais encore plus glorifié. Là. Donc, ce qu'on appelle la glorification, la gloire éternelle auprès de Dieu. Sinon, donc, juste de savoir ça, ça répond aux grandes questions de l'existence. D'où on vient, qui on est, où est-ce qu'on va, à quoi ça sert de vivre. Toutes ces questions-là trouvent des réponses dans la Bible. Comment la Bible peut être la parole de Dieu? C'est parce qu'elle est inspirée. C'est le terme qui est écrit dans la Bible. C'est l'inspiration de la Bible. La Bible se présente elle-même comme la parole de Dieu. Mais elle indique aussi qu'elle a été écrite par des hommes. Par exemple, Jérémie, il l'écrit, là, que c'est lui qui a écrit son texte. Paul, quand il envoie une lettre, il dit une lettre de Paul. Donc, on sait que c'est des hommes qui ont écrit les écrits. Donc, comment c'est possible? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? On dit que c'est la parole de Dieu, mais en même temps, c'est des hommes qui l'ont écrit. Oui, Joe?
L'exemple que j'aime, là, c'est que j'allais au piano. Jouait les symphonies de Beethoven. Tout le monde reconnaîtrait que c'est Beethoven. Même si c'est moi qui est en train de le jouer, c'est pas Beethoven lui-même. Alors, c'est possible que Dieu ait inspiré, que ce soit Dieu qui parle, mais c'est sûr que ça passe par la main d'un homme, mais c'est quand même du Beethoven, même si c'est pas Dieu lui-même qui a pris le stylo et qui l'a écrit.
Ouais, c'est une bonne image.
Il savait-tu que ça allait se retrouver dans le livre de Dieu ou c'est quelqu'un d'autre
qui s'est dévoilé?
Oui, ça, c'est des bonnes questions, mais il semblerait, d'après les recherches qui ont été faites, là, il semblerait que ceux qui ont écrit, la plupart savaient que ça allait être conservé précieusement. Là. Puis Paul, quand il écrit, là, il écrit avec l'autorité d'un apôtre. Là. Et ce qu'il écrit, il considère ses propres paroles comme la parole de Dieu. Même dans certains passages, là, il dit « Vous avez reçu... ces paroles-là, là, puis soyez sûrs que c'est... Oui, un peu, c'est demande que ça soit circulé. Je ne sais pas s'ils savaient qu'un jour, on aurait une Bible avec tous les recueils en main comme ça, là. Sûrement pas, mais... Mais leur intention, c'était quand même de consigner ces paroles-là pour les générations futures. Mais si on parle de l'inspiration, une première caractéristique, là, c'est que l'inspiration, c'est que c'est des auteurs humains qui ont parlé de la part de Dieu. Donc, ce n'est pas de leur propre chef. Ils viennent, ils écrivent au nom de Dieu. Ce qu'ils disent, c'est les oracles de Dieu. Et ils sont poussés par le Saint-Esprit. Ça, Pierre le dit dans 2 Pierre. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture, puis là, quand il parle de prophétie, dans le fond, il est en train de dire tous les écrits, là. Parce que c'est. Même les livres historiques sont des prophéties, parce que les humains parlent au nom de Dieu. Aucune prophétie ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Donc, on ne peut pas faire dire n'importe quoi à ce qui est écrit. Puis même celui qui a écrit, c'est pas des. Ça ne vient pas de lui, là. Car c'est nullement par la volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, les auteurs humains ont parlé de la part de Dieu poussé par le Saint-Esprit. L'inspiration aussi, c'est que le Saint-Esprit a parlé en utilisant des auteurs humains. C'est une autre manière de le voir. C'est vraiment le Saint-Esprit qui écrit, mais il utilise la main d'un humain qui n'est pas possédé comme par un démon, là. C'est ça la différence, c'est que le Saint-Esprit, quand il contrôle un humain, il va le faire en utilisant sa propre volonté. Donc, si lorsqu'il a... le Saint-Esprit a convaincu Moïse d'écrire, c'est Moïse qui a écrit. Et c'est Moïse qui a décidé d'écrire. Mais c'est le Saint-Esprit qui agissait dans sa volonté. Il ne le contrôlait pas comme une marionnette. Mais c'est difficile à saisir, on ne comprend pas trop comment ça marche, là. C'est un miracle, là. Dans Actes 1,16, c'est Pierre qui parle d'un psaume de David. Il dit, « Frère, il fallait que s'accomplisse l'Écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. » Mais c'est vraiment un psaume de David. C'est David qui l'a écrit. Mais là, le Nouveau Testament nous dit qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui a parlé par la bouche de David.
Dans quel psaume c'est ça?
41:10. Okay. Oui, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Il lève le talon contre moi. Il y a une troisième manière de dire que la Bible est inspirée, c'est de dire que les auteurs humains ont été inspirés par Dieu. C'est-à-dire, c'est pas juste comme un écrivain qui, tout à coup, il est de bonne humeur, puis là, « Ah, je suis inspiré par la nature. » C'est plutôt, le terme exact, c'est comme « spiré », souffler. C'est comme si Dieu a soufflé dans son esprit les paroles qu'il devait écrire. Oui, c'est impressionnant de voir ça. Puis Dieu s'est abaissé au niveau de l'homme pour utiliser son langage. Il est dit dans 2 Timothée 3, « Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés ou les saintes lettres. Elles peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu. » Là aussi, ça ne veut pas dire n'importe quel texte, mais toute écriture de la Bible est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Donc, c'est vraiment inspiré de Dieu. Parfois, Dieu a dicté les mots. Comme dans Deutéronome, c'est lorsqu'il dit, il dicte les paroles des 10 commandements. Parfois, il dit qu'il a mis les paroles dans la bouche. Ou comme Ézéchiel, il dit qu'il y a un feu, ça brûle. Là, il parle, puis il dit des choses qu'il n'aurait jamais dit. C'est vraiment Dieu qui le fait parler, là. Puis après ça, il a écrit ce qu'il avait dit. Mais souvent aussi, il a utilisé le style de l'auteur et même sa démarche personnelle. Comme dans Luc, il dit qu'il a vu que plusieurs commençaient à écrire, de faire des rapports de la vie de Jésus. Puis il dit, j'ai cru bon, moi aussi, de tout rassembler, de faire des recherches exactes pour sortir. Puis Luc a passé beaucoup de temps à faire des recherches exactes. Il a peut-être interviewé. Il fait comme un travail de journaliste, là. Donc, c'est lui-même là, qui a eu le désir de faire ça. Bon, on sait que ça vient de Dieu, mais c'est sa propre démarche, puis c'est son propre style aussi. Lui, c'était plus un intellectuel, puis il voulait donner un récit le plus exact possible. C'est lui aussi qui a écrit le livre des Actes. Mais même si ça vient de sa propre volonté, on sait que c'est la volonté de Dieu, et même Paul en parle plus tard dans le Nouveau Testament, il cite un passage de Luc, puis il dit que c'est la parole de Dieu. Donc, le Nouveau Testament lui-même confirme que ses propres écrits, c'est la parole de Dieu. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a plusieurs auteurs humains, mais il y a un seul auteur divin. C'est ce qui fait que ça ressemble à du Beethoven, là, du début à la fin. On sait qu'il y a comme un auteur divin derrière tout cela, là. Puis dans l'histoire de la formation de la Bible, il y a une sélection qui a dû être faite. Parce qu'il y a eu plusieurs écrits qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des livres qui ont été inclus, d'autres qui ont été exclus. Puis l'ensemble des livres de la Bible, c'est appelé le canon. Si jamais vous entendez ça ou vous lisez un commentaire, puis il parle du canon, là, ça veut juste dire la liste des 66 livres qu'on a. Puis on peut distinguer le canon de l'Ancien Testament et le canon du Nouveau Testament. Pour l'Ancien Testament, il a été assemblé par le peuple juif au fur et à mesure que les textes étaient écrits puis qu'ils étaient reconnus comme étant inspirés de Dieu. Puis les textes des faux prophètes étaient exclus au fur et à mesure. Mais peut-être diras-tu en ton cœur, bien, comment reconnaîtrons-nous la parole de l'Éternel et la parole de l'Éternel qui n'aura pas dite? Comment on fait pour savoir si c'est un vrai prophète ou un faux prophète? Bien, là, il y a plusieurs critère. C'est sûr que si un prophète a dit quelque chose, puis un autre vient, puis il dit exactement le contraire, ça se peut pas, là. Dieu ne va pas se contredire dans ce qu'il annonce, dans ses principes, dans sa loi. Il y a une autre indication aussi, là, quand un prophète parlera au nom de l'Éternel et que sa parole ne se réalisera pas et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. Puis elle est exclue. Donc, il y a eu un filtrage qui s'est fait au long de l'Écriture. Puis ce canon-là des Écritures, c'est vraiment les Juifs qui l'ont rassemblé. Puis à l'époque de Jésus, il existait déjà. Tous les livres de l'Ancien Testament existaient. Puis c'est ce canon-là qui a été adopté par les chrétiens comme Ancien Testament.
Non, mais les catholiques, ils ont des ajouts.
Oui, c'est ça.
Le Maccabée et compagnie.
Mais c'est ce qu'on appelle les écrits apocryphes. Il y avait d'autres textes aussi, puis qui étaient souvent conservés avec les écrits bibliques par les Juifs. Puis là, l'Église catholique en a pris. Mais même les Juifs ont toujours reconnu que ce n'était pas des livres inspirés. Donc, c'était une erreur de l'Église catholique de les inclure dans la Bible. Les Juifs eux-mêmes savaient que ce n'était pas inclus. Ils s'en servaient pour aider à leur analyse. C'est comme des écrits, mais ils savaient très bien que ça ne faisait pas partie de la Bible.
La Torah, c'est l'Ancien Testament. C'est exactement ça.
Oui. Non, c'est ça. C'est exactement ça. Mais pas exactement dans le même ordre. Donc, tous les livres sont là, mais dans un ordre parfois un peu différent. Comme nous, on a Rois et Chroniques qui sont collés ensemble parce qu'ils vont parler toutes les deux de la chronologie des rois, là. Mais pour les Juifs, parce qu'ils considèrent que Chroniques, ça a été écrit après, c'est comme des livres extra. Ils placent à la fin avec Esdras, Néhémie, Esther. Mais c'est exactement les mêmes livres. Puis comme on disait, il y a d'autres écrits apocryphes qui ont été conservés, mais ils n'ont jamais été considérés comme inspirés. C'est ça, il y a eu d'autres écrits apocryphes qui ont été conservés. Puis l'Église catholique, malheureusement, les a ajoutés.
Oui.
On a ajouté plusieurs. Ça a trompé les gens, ils pensent que ça fait partie de la Bible. Oui, bon, on arrive dans le Nouveau, là. Dans le Nouveau Testament, c'est qu'en plus, les auteurs du Nouveau Testament, c'est pas juste les chrétiens des églises qui ont dit « Ah, ben, ça doit être bon, ben, on va l'ajouter dans la Bible. » C'est que les auteurs du Nouveau Testament, comme Paul, Matthieu, Marc, citent l'Ancien Testament. Donc, le Nouveau Testament cite presque tous les livres de l'Ancien Testament. Donc, ça nous montre qu'ils les considèrent comme la parole de Dieu. Donc, c'était une conséquence logique que nous, on l'inclut dans la Bible.
Jésus lui-même dans cette fois-ci, justement.
Ben, c'est ça. Ils ont cité presque tous les livres.
Est-ce que tous les livres de la Bible sont cités dans le Nouveau Testament, ou presque tout?
Presque tout, oui.
Okay, mais ça montre aussi que les apocryphes sont...
Oui, aucun écrit apocryphe n'est cité. Les auteurs aussi du Nouveau Testament nous rapportent que Jésus considérait l'Ancien Testament comme la parole de Dieu. Donc, on doit conclure que le Saint-Esprit a non seulement été à l'œuvre pour inspirer les textes, mais il a été aussi à l'œuvre pour former le canon. C'est le Saint-Esprit qui a guidé le peuple de Dieu à reconnaître que ces livres-là étaient inspirés et à les mettre ensemble. Il n'y a pas eu d'erreur qui s'est faite, ben, à part des mal intentionnés, là. Mais ce qui est reconnu vraiment comme le canon de l'Ancien Testament, tout le monde est encore unanime aujourd'hui. Donc ça, c'est un miracle. Puis la même chose s'est produite pour le Nouveau Testament de manière différente, là. Le canon du Nouveau, lui, a été assemblé par les chrétiens pendant les trois premiers siècles. Donc le siècle 0, 100 et 200. Les lettres circulaient d'église en église, puis là, les gens les recopiaient, puis ils ont cru bon de les rassembler pour ne pas les perdre. Puis le canon s'est bâti. Les textes sélectionnés ont été considérés comme inspirés par Dieu, au même titre que les textes de l'Ancien Testament. Comme dans 1 Thessalonicien, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme une parole des hommes, mais comme celle qui est vraiment la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Donc, le message des apôtres qui était au début qui circulait de manière orale, ensuite qui a été consigné par écrit, était considéré comme la parole de Dieu. Et contrairement à ce que certains disent, là, l'Église catholique aime ça dire ça, qu'un jour il y a eu un concile, là, puis ils ont décidé quel livre allait faire partie du Nouveau Testament, c'est pas arrivé. Dans l'histoire, ça s'est fait de manière naturelle. On voit encore là que c'est le Saint-Esprit qui a guidé les chrétiens. De manière naturelle, puis même des fois dans des églises différentes, ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Ça, c'est la liste des livres qu'on considère inspirés, puis qu'on veut qu'ils soient dans le recueil du Nouveau Testament. Les livres, ce sont... Donc, il n'y a eu aucun concile qui a décidé de quel livre allait faire partie. Il y a eu plusieurs conciles qui en ont discuté, mais sont arrivés à la conclusion que tous ceux qui étaient là devaient en faire partie. Donc, il n'y a eu aucun changement qui a été apporté. Ça s'est fait vraiment progressivement. Les livres se sont imposés d'eux-mêmes dans les recueils des églises. Puis ensuite, ils ont été officiellement reconnus, mais le canon était déjà formé. Mais ce qu'on a observé, certains appellent ça des critères de sélection, mais j'aime pas ce terme-là parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu les chrétiens, qui s'est inspiré. Mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a, il y a plusieurs caractéristiques qui sont communes à tous les livres du Nouveau Testament, dont la plus forte, c'est que tous les livres du Nouveau Testament ont été écrits par un apôtre ou par quelqu'un qui était sous l'autorité d'un apôtre. Par exemple, Marc n'était pas un des 12 apôtres, mais il a écrit sous l'autorité de Pierre. Ça a été découvert. Donc, tous les écrits du Nouveau Testament, c'est vraiment les apôtres, ceux qui ont été mandatés spécialement par Jésus pour écrire pendant la période du fondement de l'Église. Puis, pour répondre à la question de Michel, pour le Nouveau Testament, il y a eu aussi des écrits apocryphes dans l'ère de la Nouvelle Alliance. Puis, il y en a certains qui ont été conservés, mais ils n'ont jamais été inclus dans le canon. Donc, jamais qu'ils ont été là, puis tout à coup, on a dit, oh, finalement, ça n'a pas d'affaire là, on va l'enlever. Ça n'a jamais été inclus officiellement dans le canon du Nouveau Testament. Puis, si vous pouvez fouiller sur Internet, mettons, l'Évangile de Thomas, ou des choses comme ça, c'est des aberrations. Quand on lit ça, là, même, des fois, c'est drôle. Il va raconter l'histoire de Jésus, là, qui s'en va voir des enfants, puis, mais c'est raconté d'une manière comme une fable, là, c'est farfelu. N'importe qui arrive à la conclusion que ce n'est pas inspiré. Puis en plus, ça contredit. Les doctrines qui sont écrites dedans contredisent le reste du Nouveau Testament. Donc, comme pour l'Ancien Testament, il semble évident que le Saint-Esprit a non seulement travaillé à inspirer les auteurs, mais il a œuvré aussi à la formation du canon. Ça s'est fait de manière surnaturelle. Il y a eu un consensus de tous les chrétiens dans tous les coins du monde de l'époque pour arriver aux mêmes conclusions que ça, c'était le canon du Nouveau Testament. C'est le Saint-Esprit qui a permis cela. Puis le Saint-Esprit semble avoir travaillé d'une troisième façon en ce qui concerne la Bible aussi. C'est pour sa préservation, comme disait Christine. Ça aussi, c'est miraculeux. Les textes originaux, malheureusement, les premiers manuscrits ont tous été perdus. On n'a aujourd'hui entre les mains aucun des manuscrits originaux. Mais à l'époque, ils écrivaient sur du papyrus ou du cuir. Ça ne durait pas longtemps. Après un bout de temps, c'était usé. Ça devait être recopié. Donc, on n'a pas les textes originaux. Mais il faut savoir que pour tous les écrits de l'Antiquité, il n'y en a aucun qu'on a le texte original. Les écrits de Platon, d'Aristote, de Jules César. Donc, c'est la même situation pour tous, sauf que la Bible est vraiment dans une case à part pour ce qui est de la préservation. Mais les recherches ont démontré que les textes hébreux et grecs qu'on a de disponibles aujourd'hui sont très fiables. C'est des copies très fidèles aux originaux. C'est vraiment dans une classe à part. D'habitude, quand on étudie des manuscrits d'ouvrages historiques, on va considérer qu'ils sont fidèles ou très fidèles. Mais la Bible, ça dépasse tout ce qui existe. C'est vraiment dans une classe à part, ça a été préservé miraculeusement. Quelques occasions, Dieu a dicté vraiment les mots, mais il ne faut pas croire que les 10 commandements sont plus inspirés que le reste de la Bible. Ou certains font l'erreur aussi de prendre les paroles de Jésus comme étant plus importantes que les paroles de Paul. Il y a certaines Bibles aussi qui mettent les paroles de Jésus en rouge. Il faut faire attention avec ça. Toute la Bible est inspirée, toute la Bible est la parole de Dieu, à autorité.
Mais pardon Richard, même Jésus, quand il prend et cite, il prend les copies, là, quand il lit dans les synagogues. C'est des copies qu'il a, il n'y a pas les originaux.
Oui, même Jésus avait des copies, puis il est considéré comme très fiable. Là. Il n'y avait aucun doute. Là. Donc, on peut se fier. Si Jésus était tranquille avec ça, ben nous aussi, on peut être tranquille. Mais c'est les Juifs qui se sont appliqués à recopier. Mais ils considéraient les écrits vraiment comme des écrits sacrés. Puis ils sont allés d'une minutie exemplaire. Là. C'est incomparable dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a jamais eu un souci aussi. Jamais un peuple s'est appliqué autant pour recopier. Ils recopiaient le texte mot par mot sans tolérer la moindre erreur. Si jamais il y avait une erreur à la feuille, là, on déchire, on recommence. Puis l'intégralité des copies était à ce point vérifiée qu'ils les considéraient comme parfaites. Au point où les plus anciennes copies qui étaient usées, ils les détruisaient. C'était pas grave. Nous, on voudrait se garder un backup, là, comme on dit en québécois, là, pour être sûr d'aller vérifier. Mais eux, ils étaient tellement certains que c'était parfait là, qu'ils détruisaient les anciennes copies. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui se sont perdus. Mais de toute façon, ils avaient confiance que c'était intégral. Le plus vieux manuscrit complet de l'Ancien Testament disponible aujourd'hui, c'est celui de Leningrad. Il date de l'an 1010. Avant celle-là, ils ont été détruits, la plupart volontairement, parce que ce n'était pas important de les garder. C'est celui qui est utilisé pour traduire dans toutes les langues. C'est celui qui a été utilisé pour traduire par Louis II. Mais, comme disait notre sœur Françoise, il y en a d'autres qui ont été trouvés, qui sont beaucoup plus anciens que cela, dans les grottes de la mer Morte. Donc, après la Deuxième Guerre, là, en 1947 à 1956, ils ont trouvé dans une grotte dans ce genre-là, là, c'était très bien conservé dans des vases, ils ont trouvé des écrits très vieux, là, qui datent de 3e jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Puis il y a des extraits de presque tous les livres de la Bible, sauf Esther, qui n'a pas un extrait. Mais il y a des grandes parties de Samuel, des rois. Puis en plus, ce qui est très précieux, c'est qu'il y a le livre d'Ésaïe au complet. Il y a 66 chapitres d'Ésaïe. Puis ça, c'était drôle parce que les supposés théologiens libéraux, ils disaient qu'Ésaïe, ça avait été écrit après Jésus-Christ, là, dans les années 800 à peu près, qu'ils disaient. Puis là, ils trouvent Ésaïe, qui est âgé de 200 ans avant Jésus-Christ, qui est intégral, pareil à ce qu'on a aujourd'hui. Là, ils ont été confondus. Mais ça a été sécurisant pour nous, là, parce que s'il y avait une erreur, c'était sur une petite... un iota, là, ou un « le » à la place d'un « la », ou un mot qui était au singulier, tout à coup était au pluriel, mais c'était des peccadilles, puis il n'y en a presque pas. Là. C'est genre 99,999 identique. Ça, c'est sécurisant. Ça démontre que la minutie que les Juifs ont apportée à copier, elle est exacte, on peut s'y fier. Donc, on peut être assuré, l'Ancien Testament qu'on a entre les mains est très fiable. Pour le Nouveau Testament, il y a eu plus de questions qui ont été soulevées, parce que c'est les chrétiens qui ont recopié les lettres, mais eux, ce n'étaient pas des scribes professionnels pour la plupart. Des fois, ils engageaient des jeunes gens ou il y a plusieurs scribes qui étaient des femmes aussi. Je ne dis pas que les femmes sont moins minutieuses, même pas. Souvent, ils sont plus, là, mais ce n'étaient pas des gens qui avaient une carrière de scribe nécessairement. Là. Puis, il y a eu des erreurs, il y a eu plusieurs variantes. Il y a eu malheureusement aussi des gens qui étaient mal intentionnés, qui ont carrément rajouté un petit bout de phrase ou qui pensaient que l'auteur s'était trompé puis il l'a corrigé. Mais on n'est pas mal en point pour autant parce qu'il y a une grande quantité de manuscrits, donc on peut les comparer. On a 5600 manuscrits connus du Nouveau Testament. En général, ils sont moins fidèles que ceux de l'Ancien Testament parce qu'ils contiennent des variantes qu'on appelle. Donc, quand on compare deux manuscrits, il y en a un qui peut dire « le », l'autre va dire « la », des différences dans les articles là, ou des choses comme ça, où l'un va dire au pluriel, l'autre va dire au singulier, il peut avoir des mots d'inversés. Ça reste mineur. Donc là, il y en a qui se sont posé la question, mais le texte original ressemblait à quoi? Mais vu qu'on ne l'a pas, c'est une science qu'on appelle la critique textuelle. Ils ont pris tous les manuscrits disponibles, les ont comparés. Il y en a un groupe, là, c'est deux chercheurs qui ont travaillé ensemble, ils ont consacré une grande partie de leur vie à faire ça. Ils en ont analysé 4000 manuscrits pour essayer de trouver le texte original. Puis c'est celui-là qu'on utilise pour traduire le Nouveau Testament dans toutes les langues aujourd'hui. C'est celui-là que Louis II a utilisé. C'est le texte compilé.
Est-ce que ces deux hommes-là ont été inspirés de Dieu?
Non, pas nécessairement, mais leur travail a été béni. Là. C'est sûr qu'ils ont été conduits par Dieu. Mais ça reste une science. Eux, ils n'ont pas formé un nouveau texte. Là. Ils ont juste essayé de découvrir c'était quoi l'original en comparant toutes les versions qui existent. Mais de toute façon, leur analyse a permis de montrer que même si tu prends des manuscrits qui sont les plus différents possibles, qui sont les plus éloignés, qui ont le plus de variantes l'un par rapport à l'autre, ils sont à 99,9% identiques pour tout ce qui va avoir un effet sur le sens de la phrase. Donc, parfois, il peut y avoir des erreurs où il y a un « s » qui est ajouté, où ce n'est pas exactement le même mot, ou bien le mot, au lieu d'être au présent, il est au participe présent, mais c'est le même sens. Là. Donc, c'est seulement à 0,1% des cas où la variante va changer le sens de la phrase. Et c'est jamais pour une question de doctrine. Donc, on voit vraiment que Dieu a préservé son écriture. Puis, si on compare avec, on va terminer avec ça, là, on compare avec d'autres écrits, là, comme tout le monde a confiance dans les textes de Jules César, ceux qui vont étudier ça, là, mais il y a juste 10 manuscrits qui existent, là, qui sont très différents les uns des autres. Puis, on pense que Jules a écrit en l'an 100 avant Jésus, là, puis c'est seulement en l'an 900 là, qu'on a le plus ancien manuscrit. Donc, il s'est passé 1000 ans là, où est-ce que des gens l'ont copié, puis il y a pu avoir toutes sortes de modifications, volontaires ou non. Là. surtout à l'époque des Romains qui voulaient améliorer la réputation. Là. Il y a seulement le Nouveau Testament qui est dans une classe à part là, où on a 5600. Puis on a, pour le Nouveau Testament, les plus vieux manuscrits, c'est en l'an 130. Donc c'est très près de la période où ça a été écrit. On peut se fier. Oui?
Oui, mais puisque c'était écrit en l'original en grec, comment ça? C'était les Grecs qui cherchaient?
Non, c'est parce que la langue commune de l'époque, c'était le grec. Comme aujourd'hui, la langue dans l'ensemble des nations, c'est comme l'anglais. Là.
Pour trouver le bien, c'était quoi? C'est quelle langue?
C'est en grec. Oui, c'est dans les manuscrits originaux. Oui, c'est dans le grec. Les autres, ils forment le texte, là, qui est le produit de la critique textuelle. Puis c'est ça qu'on va servir comme Nouveau Testament grec pour le traduire dans différentes langues. Donc, pour résumer, le Saint-Esprit a été à l'œuvre, en ce qui concerne la Bible, pour l'écrire, pour inspirer les textes originaux. Ça, c'est clair, la Bible le dit elle-même. Mais on peut observer aussi que le Saint-Esprit a dirigé autant le peuple de Dieu de l'Ancienne Alliance que le peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance pour former le canon. Puis que heureusement, les textes qui n'ont pas de bon sens, qui sont farfelus, ont été mis de côté. Dieu a bien dirigé les choses. Puis le Saint-Esprit a opéré un troisième miracle, c'est qu'il a préservé les textes à travers les siècles, ce qui est aussi un miracle. Parce qu'il y a eu des peuples qui ont voulu détruire la Bible complètement, là, puis elle a survécu. Quelqu'un voudrait prier pour conclure le cours?